Sur Radio Galaxy, on va parler de la prochaine conférence organisée par La Pub en Vol qui se tiendra le mercredi 27 novembre à Montesquieu-Volvestre. Et là, on va parler des francs-maçons, de la Grande Loge de France ainsi que de la Grande Loge féminine de France. Nous sommes avec Claude Garrigue et Patrick Buty. Bonjour.
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 Alors, vous serez trois à présenter la conférence avec Véronique Vincent. Vous êtes tous les deux, ou même tous les trois, ce qu'on appelle des francs-maçons. C'est un terme qui me paraît assez complexe. C'est quoi, dans un premier temps, être franc-maçon ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la franc-maçonnerie est multiple. Donc, ce qu'on va vous expliquer est bien évidemment en relation avec ce que nous sommes à la Grande Loge de France. Comme je vous ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, c'est qu'en fait, la maçonnerie est multiple et on peut, si on voulait la définir de façon globale, on pourrait définir trois types de maçonnerie. La maçonnerie dite sociétale, une maçonnerie dite d'influence et une maçonnerie dite initiatique et de développement personnel. Voilà, et nous, la Grande Loge de France, nous nous définissons par rapport à cette maçonnerie qui est une maçonnerie de construction personnelle. Essentiellement, elle cherche à mettre en avant l'individu en lui-même et son perfectionnement intellectuel, moral et spirituel. C'est bien dans ce sens-là. Et la finalité absolue de cette spiritualité, c'est d'arriver dans le sens de ce qu'on appelle en philosophie l'autonomie de la conscience. C'est-à-dire l'homme qui se pense par lui-même et qui est autonome dans ses actes et dans ses pensées. Globalement, c'est à travers de tout cela que nous définissons ce que nous appelons une démarche initiatique.
Donc c'est un mouvement mondial. Et donc le but, comme vous nous l'avez dit, c'était bien d'améliorer l'homme et de faire progresser la société en portant des valeurs de tolérance et de fraternité.
Oui, effectivement, toutes ces valeurs seront développées, seront mises en évidence dans nos rencontres pour être portées à l'extérieur. Sinon, ça ne servirait à rien de garder ces choses-là uniquement entre nous. Pour revenir peut-être sur la première partie de la question, qu'est-ce qu'un franc-maçon ou une franc-maçonne ? C'est une femme et un homme qui un jour ont choisi, ont décidé d'intégrer une réelle fraternité. Un ordre, alors un ordre initiatique, venant du fin fond de l'histoire, et de décider donc de faire une introspection et de travailler sur soi. Je crois que c'est la partie la plus importante, et dans un cadre qui est bien défini, qui est celui du fonctionnement de la franc-maçonnerie dans le cadre d'une loge.
Oui, parce que tous les deux, vous faites partie de ce qu'on appelle la Grande Loge de France.
Oui, tout à fait. Je rajouterai par rapport à ce que dit Patrick, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche individuelle effectuée dans un collectif. C'est-à-dire que vous avez les deux approches, c'est-à-dire vous avez la quête personnelle, mais en comparaison avec les pensées des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en maçonnerie, dans nos échanges, nous n'avons pas le droit d'invectiver la personne qui pense différemment de nous. On a ce postulat de base qui consiste à dire que chaque approche est individuelle et la conséquence du ressort qui est propre à chacun. Et nous ne devons pas porter un jugement moral sur une pensée qui n'est pas la nôtre. Justement, nous devons nous en enrichir. Et c'est ça, cet échange qui est à la fois une démarche individuelle au sein d'un collectif.
Alors, pour expliquer un peu votre parcours, comment on devient franc-maçon et qu'est-ce qui vous a poussé à le devenir ?
Alors, moi, c'est un mauvais exemple. J'ai un contexte familial qui me l'a permis, mais ce n'est pas toujours comme ça. En général, ce qui se passe, c'est qu'un franc-maçon repère effectivement autour de lui quelqu'un qui porte des valeurs qui sont les nôtres. Au travers de discussions, au travers d'approches, il finit par, en général, se dévoiler. Et dans ce cas-là, s'entame un processus de discussion et de relation qui fait que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc, si on sent bien, effectivement, qu'il y a des atomes crochus et que, voilà, ça passe, eh bien, le processus continue.
Mon exemple est complètement différent, puisqu'en fait, rien ne faisait que j'aurais dû rentrer en franc-maçonnerie, puisque celui qui a été sollicité à ma place était mon frère, en fait, mon frère de sang, et qui n'était pas intéressé ni disponible à cette époque-là. Et je crois que naturellement, on s'est tourné vers moi. J'en ai été le premier étonné. Et puis maintenant, au bout de 35 ans, j'ai l'intime conviction que je ne me suis pas trompé en acceptant de rentrer en franc-maçonnerie. La preuve, j'y suis encore.
Parce qu'à partir du moment où l'on va toquer à la porte de ce qu'on appelle une loge, on va voir ensemble ce que cela signifie, il y a toute une démarche qui s'enclenche et tout un chemin à faire pour devenir franc-maçon.
Oui, faut bien comprendre que ce n'est pas un chemin automatique. Hein. Quand vous rentrez dans une loge, il ne faut pas croire que c'est comme dans une association normale, où vous prenez un bulletin d'adhésion et vous rentrez. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord une quête qui se formalise au travers d'une relation en général au début d'une personne qui est maçonne et qui, effectivement, au travers d'une discussion, d'un développement, essaye de développer et de découvrir chez cette personne que nous qualifions de profane les qualités qui correspondent à ce que nous sommes, nous, en franc-maçonnerie. Alors, on peut dire que ces qualités tournent autour de l'humanisme. C'est une démarche qui est au cœur, même de toutes les maçonneries, hein, de toutes les obédiences. Le principal objet, c'est l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous avez, par exemple, au Moyen-Âge, le centre de préoccupations, c'était la divinité, c'était pas l'homme. Est né en Occident, à partir de la Renaissance, un développement autour de l'humanisme. Et la maçonnerie, il faut comprendre, c'est que la maçonnerie et l'humanisme sont nés à peu près en même temps. Alors, ce n'est pas la maçonnerie qui a inventé l'humanisme, hein, faut être sérieux, mais elles se sont fondues dans leur développement parce qu'elles sont à peu près nées aux mêmes périodes.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des missions, par exemple, en tant que franc-maçon ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obédience ne nous donne aucune injonction d'un choix politique à faire. Les obédiences, en général, sont faites pour faire des maçons. C'est-à-dire initier, c'est-à-dire développer cet esprit de tolérance, d'humanisme, d'ouverture au monde, de telle façon à avoir une conscience libre. S'il y avait une mission, si on peut dire ça, mais bon, la mission, c'est de, au travers dans le monde extérieur, c'est dans chacun dans son endroit, appliquer les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'humanisme, la tolérance, le respect de l'autre, le respect de la dignité humaine. Il suffit de regarder autour de nous pour dire qu'aujourd'hui, la dignité humaine, elle n'est pas toujours respectée partout. S'il y avait une mission, ça c'était bien celle-là.
Alors pour l'origine, on va en parler, tout aurait commencé au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, par ce qu'on appelle la maçonnerie opérative, qui était le regroupement des maçons de métier. Et si je comprends bien, avec le temps, on est passé d'une maçonnerie anglo-saxonne à une maçonnerie continentale.
Il faut bien comprendre que l'organisation du métier au Moyen-Âge était globalement à peu près la même un peu partout avec des différences. Vous aviez, si je schématise un petit peu, vous aviez des corporations qui, on appelait ça des gérances, qui prêtaient serment auprès des villes. Vous avez la corporation des sabotiers, la corporation des tanneurs, enfin bon, et ainsi de suite. Et ça, ils prêtaient serment auprès des communes et des villes. Et vous aviez une autre catégorie de maçons qui étaient ce qu'on appelle les francs métiers, qui tournaient surtout essentiellement autour des métiers de la pierre et du bois. Pourquoi ? Parce que quand on faisait les constructions des grands édifices, les cathédrales, les châteaux, on avait besoin effectivement de spécialistes qui savaient maîtriser ces métiers et ils voyageaient, ils ne restaient pas dans les villes. Ils se déplaçaient selon les chantiers qui existaient à l'époque. Et donc, ils ne prêtaient pas serment auprès des villes. C'est ce qu'on a appelé les francs métiers. Et c'est à partir de cette catégorisation que la maçonnerie est née. Elle a pris forme d'une façon plus précise en Écosse. Plus précisément, parce qu'à un moment donné, ce qu'on appelait au travers des statuts chauds, c'était l'intendant des bâtiments du roi d'Écosse qui effectivement a voulu fixer ses loges au travers effectivement de loges dans les communes. Ils avaient des lieux pour fixer ça. Et c'est à partir de là qu'on a toute la structure de la loge s'est montée, sans que ce soit encore de la maçonnerie dite spéculative, comme aujourd'hui. C'était encore en lien avec le métier.
Ouais, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On parle de francs-maçons, d'obédience ou encore de grandes loges de France, purement masculines, qui a pris sa forme définitive en 1894. C'est la deuxième plus grande obédience de France, Claude.
Oui, tout à fait. La Grande Loge de France comporte aujourd'hui à peu près 31 000 membres. C'est la deuxième obédience en France.
Alors, on va donner quelques chiffres. On compte aujourd'hui donc 929 loges en France et à l'étranger. Et 31 000 frères, ce sont des hommes libres de toutes origines, de toutes nationalités et de toutes croyances.
Tout à fait. Alors là, vous donnez des chiffres de la Grande Loge de France. Hein.
Absolument.
Tout à fait. Et ça, c'est difficile à comprendre. Moi, je vous donne mon cas personnel, mais je pense que Patrick pourrait faire la même chose. C'est que quand moi j'étais initié, Alors, c'est pour casser un mythe qui est complètement faux, où on dit que la maçonnerie, c'est l'élite. Ce n'est pas vrai. La maçonnerie, ce n'est pas l'élite. La maçonnerie, je préfère le terme, elle est élitiste. Alors, il faut l'expliquer. Quand moi, je suis rentré en maçonnerie, j'étais simplement agent administratif d'une grande entreprise française. Vous ne voyez pas, à moi, le patron du CAC 40, quoi, en fait. Et ça, c'est difficile à comprendre. Les gens de l'extérieur ont du mal à saisir ça. C'est que moi, dans l'une des loges où j'étais... J'étais, moi, simple agent administratif. Et à côté de moi, j'avais, sans citer, j'avais le quatrième homme d'une grande entreprise française. Donc, dans une même loge, vous pouvez rencontrer des gens de tout horizon, de toutes conditions sociales et de tout niveau de pensée et d'éducation. Et c'est ce mélange qui est d'une richesse extraordinaire. Parce que pour moi, qui étais simple agent administratif, avoir la connaissance de gens qui ont une connaissance plus grande que la mienne était très enrichissant. Mais de leur côté, tous ces gens qui ont une formation universitaire ou autre, prenaient contact avec nous, avec la réalité du terrain. Donc c'est une symbiose qui se fait entre l'un et l'autre, qui apporte à l'un et à l'autre.
Est-ce que vous avez l'impression que les gens portent un regard négatif sur la Grande Loge de France ou sur être franc-maçon ?
Oui, on pourrait le dire comme ça. Il n'y a qu'à voir les reportages... qu'ils soient télévisés, dans les journaux ou autres. Hein. Chaque année, on a droit au même reportage négatif qui porte un message négatif sur la franc-maçonnerie. Alors, on peut trouver de temps en temps une émission qui tourne en boucle sur une chaîne de la TNT qui va peut-être embrassant sur les trois plus grosses obédiences quelques éléments un peu positifs. Mais c'est relativement rare. Les gens ont une mauvaise opinion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mmh. On parle de secret en franc-maçonnerie. Alors, il n'y a pas de secret en franc-maçonnerie. On arrive aujourd'hui à tout trouver sur Internet ou dans certains bouquins spécialisés. Encore faut-il choisir et ne pas tomber dans les pièges. Le seul secret, en fait, il y en a un de secret. Je vais vous dire lequel il est. C'est ce que j'ai vécu lors de mon initiation. C'est un ressenti. Et donc, c'est quelque chose que je ne peux pas communiquer. Ça fait partie du ressenti. Et ça, c'est le véritable secret. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie a été, et peut-être encore aujourd'hui, assimilée à une secte. Il y a eu une commission nationale qui a été mise en place, justement, pour déterminer qui était ou qui n'était pas... une secte. La franc-maçonnerie, bien entendu, n'en faisait pas partie. Il y a eu tout un combat, justement, pour essayer de discerner ce qui l'était de ce qui ne l'était pas. Donc, la franc-maçonnerie n'est pas une secte. J'aurais tendance à dire, quelque part, la preuve en est, le parcours pour y rentrer est quand même un peu chaotique, un peu compliqué, et il est normal d'avoir des garde-fous, et par contre, on peut la quitter très, très, très facilement.
Vous êtes là pour nous porter un message bien positif.
Oui, absolument.
On parlait des loges tout à l'heure qui étaient réparties. Qu'est-ce qu'on y fait exactement dans ces loges ?
Les loges sont là pour fabriquer des francs-maçons. Alors, le terme fabriquer n'est pas approprié, mais on est là pour développer l'homme en lui-même, c'est-à-dire au travers d'un processus qui est un processus symbolique. Alors, pour certains, ce processus symbolique semble un peu nébuleux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on cherche à cette construction et se penser par soi-même, on a un support qui est neutre, qui est le symbolisme. Il n'y a pas d'intention derrière un symbolisme. Et quand vous avez cette approche symbolique et qu'on vous demande d'imaginer comme un poète ferait un poème, d'imaginer une pensée qui vous corresponde et qui vous touche à votre intériorité, vous dites « si ça me touche, c'est que quelque part ça me correspond ». Mais vous êtes assuré que ce symbole, il y a une forme globale, parce que ça tourne autour de l'art de la construction, ça induit certaines choses, le rituel. Mais il n'y a pas d'intention de manipulation derrière. Il y a simplement une projection que vous faites sur ce symbole qui est globalement orienté dans un certain sens, qui est celui de la construction et de la pensée par soi-même.
Alors, on a parlé de la Grande Loge de France, mais pas que. Il n'y a pas que la Grande Loge de France.
Oui, comme on a pu le discuter tout à l'heure, les approches en France sont multiples. Il faut savoir que la maçonnerie comprend la maçonnerie de façon mondiale. À aucun endroit, la maçonnerie est pareille. Par exemple, vous prenez la maçonnerie anglo-saxonne, c'est-à-dire dans les pays, les îles britanniques. D'abord, il n'y a qu'une seule obédience. Elle est essentiellement masculine. Elle est, comment dire, plutôt proche des approches caritatives. Un peu comme pourrait l'être l'ordre de Malte, par exemple. Le contexte historique de l'Europe et de la France en particulier nous a fait traverser effectivement des grosses révolutions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, à partir de 1789, il y a eu plusieurs révolutions qui ont détruit complètement en fait tout l'Ancien Régime. Et vous avez eu essentiellement dans la Deuxième République, en 1848, vous avez eu surtout effectivement l'entrée des ce qu'on appelait des libéraux, qui donnera plus tard le Parti radical, qui a effectivement a influencé la maçonnerie continentale dans un certain sens. Et nous sommes un peu l'histoire de tout ça. Alors, certains ont pris une approche sociétale comme le Grand Orient de France, nous avons pris une autre approche, surtout après-guerre. Mais il faut savoir qu'au début du siècle, la maçonnerie même de la Grande Loge de France était très tournée vers les problèmes sociétaux. Elle a réellement modifié après-guerre, comme on a pu vous le dire, avant-guerre, il y avait à peu près 50 000 maçons. Après-guerre, on n'était pas plus de 10 000, quoi. Parce que y avait beaucoup, les maçons se sont beaucoup investis dans les réseaux de résistance, quand même. Certains d'entre eux sont très connus, comme Pierre Brossolette, qui s'est balancé par la fenêtre pour ne pas dévoiler ses collègues. Voilà, donc, il faut savoir que la démarche maçonnique nous conduit vers une démarche morale qui a un lien avec le courage. Mmh. C'est-à-dire, c'est l'approche, effectivement, de la responsabilité et de la prise de conscience que nous sommes responsables de tout ce qui nous entoure.
Claude Garrigue, on peut citer également la Grande Loge Féminine de France qui a été fondée en 1952, qui compte aujourd'hui 14 000 sœurs dans 452 loges réparties en France et dans le monde entier. Est-ce que c'est un peu le même principe de fonctionnement entre ces deux loges ?
Alors là, on rentre un peu dans l'histoire. C'est que la Grande Loge Féminine de France est issue de la Grande Loge de France. Les femmes ont maçonné depuis le XVIIIe siècle. Il ne faut pas dire que c'est né après-guerre. Vous aviez des structures qu'on appelait loges d'adoption. Enfin bon, c'est un terme un peu technique, mais il faut savoir que c'était des approches rituelliques qui sont plus spécifiquement féminines. Et chaque loge d'adoption était souchée sur une loge masculine. Mmh. Donc elles n'avaient pas trop leur indépendance. Et après-guerre, il a été décidé qu'elles prennent leur indépendance. Et effectivement, c'est à partir de 1945 qu'elles se sont créées. Elles ont formé leur propre obédience et sont parties de là. Mais la Grande Loge Féminine de France et la Grande Loge de France, dans l'esprit, sont assez proches quand même. Mmh.
Aujourd'hui, on est dans une société où la mixité est de règle et pourtant, on retrouve une obédience féminine.
Alors, dans ce problème-là, il y a quelque chose qu'il faut quand même arriver à dire. Nous avons un contexte en France où, effectivement, tout est possible. Si vous voulez aller dans une maçonnerie purement masculine, vous allez dans une loge masculine. Si vous voulez aller dans une loge mixte, ça existe, et le droit humain, vous pouvez aller au droit humain. Et ceux qui, effectivement, veulent aller dans une maçonnerie de genre, masculine ou féminine, vont dans ces loges. Qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit une maçonnerie monogenre ? Si on a à discuter, comme on le fait par exemple au Grand Orient de France, qui est devenu depuis quelques années mixte, sur les problèmes sociétaux, il n'y a aucune raison pour que les femmes n'y participent pas. Aucune. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le Grand Orient de France est dans sa logique et elle est acceptable. Notre approche est totalement différente. Dans une ambiance mixte, je pense que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, ont moins tendance à se dévoiler. Mmh. Il y a une intimité qu'on ne pourrait pas avoir si on était mixte. Patrick parlait de secrets tout à l'heure. Il y a quand même deux secrets qui sont fondamentalement essentiels. C'est que, d'une part, on n'a pas le droit de dévoiler qui est maçon. C'est inscrit dans nos règlements. Et deuxièmement, tout ce qui est dit dans une loge ne sort jamais de la loge. C'est-à-dire que c'est un espace qui protège l'individu. C'est un peu comme chez le médecin, en quelque sorte. Ouais. On va dire que c'est la même chose. C'est le même principe. Et c'est cet espace protégé qui permet à des gens qui sont en perte de sens d'essayer de se retrouver et de se reconstruire. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, la perte de sens fait des ravages. Moi, j'ai eu récemment une enquête où, par exemple, le suicide des hommes a beaucoup augmenté dans notre société. Donc c'est bien quand nous sommes en perdition, en perte de sens, et où nous avons besoin de retrouver ces espaces, effectivement, où on puisse se ressaisir.
Claude Garrigue et Patrick Bouty, avec le recul, qu'est-ce que cela vous a apporté concrètement à tous les deux d'être franc-maçon ?
C'est une reconstruction. En fait, il faut accepter de passer, comme on dit en termes de maçon, du monde profane au monde sacré. On est porté par nos frères. Ce que ça a pu apporter, déjà, faire une différence entre le savoir et la connaissance. on apprend beaucoup de choses au contact de nos frères. Et en même temps, on acquiert une connaissance qu'il est difficile d'exprimer là, comme ça, devant un micro, puisque c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre de la répétitivité de nos rencontres et du vécu lors de chaque tenue, puisque c'est comme ça qu'on appelle nos rencontres, du vécu de nos rituels. Et ça, ça s'inscrit à l'intérieur de nous, jour après jour, année après année. Ça apporte un épanouissement, ça apporte un changement que souvent les autres constatent avant nous-mêmes. Combien de fois il arrive que, à l'extérieur, on puisse dire à un tel ou une telle « Tu as changé, tu n'es plus comme avant, tu es bizarre. » Ça, c'est les autres qui peuvent le voir, le constater, nous pas forcément. Donc un épanouissement, j'aurais tendance à dire oui, épanouissement.
Et pour en savoir plus sur la Grande Loge de France et la Grande Loge féminine de France, ainsi que tout savoir sur être franc-maçon, qu'est-ce que cela signifie, il faut se rendre à la conférence du mercredi 27 novembre à 20h. C'est à la salle polyvalente de Montesquieu-Volvestre, avec une entrée libre et gratuite. C'est organisé par la Pupe en Vol et elle vous sera présentée par Claude Garrigue et Patrick Bouty. Vous êtes tous les deux francs-maçons. Il y aura Véronique Vincent également qui est franc-maçonne. Merci à vous deux.
Merci de nous avoir accueillis.
Avec
merci
plaisir. Beaucoup. Une très bonne conférence.
Merci.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.